France Inter, franceinter.com.
Je suis un barbare parce qu'ils ne me comprennent pas. Ovid. Ans d'histoire. Parce qu'on ne les comprenait pas, comme l'écrivait Ovide il y a 2000 ans, les Romains les avaient appelés des barbares, jusqu'à ce qu'en 212, Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous ceux qui vivaient dans son empire. Devenus romains, les barbares pouvaient désormais accéder aux plus hautes responsabilités politiques ou militaires. Et c'est ainsi que 2 siècles et demi plus tard, l'un d'entre eux, le roi des Hérules, Odoacre, entrait dans Rome sans résistance pour y renverser le dernier empereur, un garçon de 10 ans, Romulus Augustule, qui par une étrange ironie de l'histoire, portait à la fois le nom de Romulus, le fondateur de Rome, et celui d'Auguste qui en avait fait un immense empire. Un empire qui, avec Marc Aurèle, allait s'étendre des frontières de l'Écosse à l'Égypte et du Portugal jusqu'au Rhin, au-delà duquel vivaient encore les derniers barbares.
Prince, proconsul, gouverneur, vous êtes venu des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. À la surface du monde, il ne reste que 2 petits territoires qui nous soit encore hostile. L'un est au nord et les peuplades qui l'habitent méritent à juste titre l'appellation de barbares. L'autre est à l'est, la Perse. Il n'y a qu'à ces 2 frontières que vous trouverez encore des forts, des palissades, des tranchées et de la haine. Ainsi, nous allons connaître tous l'âge d'or de la paix retrouvée, l'ère de la paix romaine.
Jean-Jacques Ariagon, bonjour.
Bonjour.
Après avoir été ministre de la Culture, vous êtes aujourd'hui président de l'établissement public du musée et du domaine de Versailles, mais aussi commissaire d'une très belle exposition qui se tient au Palazzo Grassi de Venise, Rome et les barbares. Alors, barbare, c'est un mot péjoratif, bien sûr, qu'on emploie souvent sans connaître toujours quelle en est l'origine. Qu'est-ce qu'un barbare pour les Romains, ou pour les Grecs d'ailleurs, je crois, qui ont inventé le mot?
Oui, en effet, les Grecs ont inventé le mot, les Romains l'ont repris pour désigner en gros, au départ, les gens qui étaient différents d'eux, qui vivaient en dehors des territoires qu'ils contrôlaient. Ce mot est devenu, comme vous l'avez signalé, péjoratif et séparé de connotations morales, notamment, ou culturelles, totalement négatives. C'est le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais nous le verrons, les barbares n'étaient pas barbares, en tout cas ils n'étaient pas toujours barbares. Quant aux Romains qui jetaient des êtres vivants dans les arènes pour les faire dévorer par les bêtes, ils savaient également être barbares au sens où nous l'entendons.
Les Grecs d'ailleurs n'y a pas de connotation péjorative, c'est simplement celui qu'on ne comprenait pas. Pour les Romains c'est un peu plus nuancé, on ne disait pas que du mal des barbares. Tacite par exemple, on disait plutôt du bien, en tout cas reconnaissait leur valeur et même certains aspects de leur culture.
En effet, quand Tacite veut démontrer la décadence des mœurs romaines, il décrit celle des Germains, en l'occurrence, donc des barbares, et pour montrer leur vertu, leur excellence, leur esprit de famille et leur bonne camaraderie. Mais le sentiment courant, hein, je ne parle pas de quelques sentiments d'exception comme celui de Tacite, c'était quand même de considérer les barbares plutôt comme des gens redoutables et des gens à redouter.
Alors des gens redoutables en effet, puisque les contacts ont toujours été, ou en tout cas ont longtemps été très durs entre Rome et les barbares. Il y a eu, avant d'avoir conquis les peuples ou les pays barbares, eh bien Rome a été à plusieurs reprises conquise. Les Gaulois y sont arrivés en 390 avant Jésus-Christ. Les Cimbres et les Teutons aussi, je crois que c'est le premier contact brutal qui est entre les Romains et les barbares. Et ils ont été arrêtés par Marius, c'était 109 avant notre ère. Il y avait aussi, ou encore, les Germains, en face desquels les Romains ont perdu 3 légions en Germanie à l'occasion d'une de leurs plus grandes défaites. C'était il y a 2000 ans, à l'époque de l'empereur Auguste.
César, pardonne-moi, mais un messager vient d'arriver de Germanie. Il semble qu'il y ait eu un grand désastre.
La 19e légion n'existe plus. Pas plus que la 18e ou que la 17e. Toute l'armée de Quintilius Varus a été massacrée dans la forêt de Teutberg. Il n'y a plus d'armée romaine en Germanie. Ceux qui ont survécu à la bataille ont été pourchassés et tués.
Où est Varus ?
Mort. Quand il a vu que tout était perdu, il a préféré se tuer.
Et comment se sont comportés les Germains loyaux ?
Ils nous ont trahis.
Ce sont des barbares. Ils vont se livrer au pillage. Ils finiront par s'entrebattre.
Ces barbares détiennent mes aigles.
Et ces barbares, eh bien, c'était les Germains massacrant 3 légions romaines en Germanie, au-delà du Rhin. Ça a très profondément marqué les Romains et peut-être d'ailleurs justifié aussi leur expansion, Jean-Jacques Ayago.
Oui, parce qu'en effet, l'Empire romain, il se fait sur la conquête de territoires contrôlés par des peuples différents, par des peuples barbares, les Gaulois par exemple. Les Romains continuent leur progression vers le nord et un moment envisagé de conquérir la totalité de l'Europe occidentale. Mais la bataille de Teutobourg, qu'on vient d'évoquer, en 9 de notre ère, marque un coup d'arrêt et oblige les Romains finalement à se replier et à se stabiliser, à stabiliser les territoires de l'Empire, les territoires et les frontières de l'Empire, sur en gros la ligne du Rhin et du Danube, hein, qui deviendra la grande frontière historique de l'Empire romain en Occident.
Alors cela dit, quand même, cette défaite était assez impressionnante parce que Arminius, c'est-à-dire le Germain qui avait battu et même provoqué la disparition de 3 légions, ce Arminius, c'était un citoyen romain à l'origine. C'est pour ça qu'il est question de trahison dans l'extrait de film qu'on a entendu, Jean-Jacques Ayago.
Alors en effet, vous savez, les Romains ont toujours essayé d'intégrer, en tout cas de façon très précoce, ils essaient d'intégrer partout où ils s'installent. Et leur premier contact avec le monde germanique conduit à des intégrations de notables, notamment comme celle d'Arminius. La raison pour laquelle sa trahison, donc son retour aux siens, à la défense des siens, est perçue par l'Empire romain, par Rome, comme une trahison très très sévère. La bataille de Teutobourg restera dans l'imaginaire des Romains comme l'exemple même de la bataille difficile et de la défaite injuste et violente.
Il sera vengé par Germanicus quelques années plus tard. Alors c'est alors que commence ce qu'on a appelé la paix romaine, même s'il y a eu quand même de nombreux conflits encore, et puis aussi une période d'échanges très importants entre Rome et les barbares. Il y a eu un commerce très intense qui s'est produit à ce moment-là.
Bien sûr, cette frontière immense, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'Empire s'étend sur une partie de l'Europe, il s'étend également sur une partie de l'Asie et sur une partie de l'Afrique. L'Empire romain est un vaste empire méditerranéen. Et c'est d'ailleurs son immensité qui explique la difficulté à en défendre des frontières immenses. Alors cette frontière est une zone naturellement de défense, de contact parfois violent quand il y a des incursions de ces barbares sur le territoire de l'Empire, mais la frontière est également une zone d'échange de marchandises. C'est par là que passent les marchandises qui, du nord, vont vers le sud. L'ambre, par exemple, parmi les matières premières, ou les produits manufacturés de l'Empire romain, qui remontent très très haut vers l'Europe. On a retrouvé des objets manufacturés, des pièces d'argenterie, notamment magnifiques. Elles sont présentées à Venise dans l'exposition, jusqu'au nord de l'Europe, jusqu'au Danemark, en Allemagne du Nord, jusqu'en Pologne, jusque dans le territoire de l'actuelle République tchèque. Donc, ce qui montre bien l'attraction des productions romaines sur ces peuples barbares.
Alors ces peuples barbares, il y en a aussi dans l'Empire qui sont romanisés. Alors évidemment, on connaît tous, on a tous entendu parler de l'apport de Rome qui est quand même considérable. C'est Rome qui apporte des choses que ne connaissaient pas ou dont ne disposaient pas les barbares de son empire, que ce soit ses institutions, le droit romain, l'architecture aussi. Toute cette exposition, en fait, est destinée à montrer l'apport des uns par rapport aux autres. Mais parlons peut-être d'abord de l'apport justement de Rome aux barbares de son empire, Jean-Jacques Ayron.
Alors, cet apport, naturellement, s'exprime surtout sur les territoires que Rome domine et maîtrise totalement. C'est vrai que partout sur son territoire, Rome installe une magnifique civilisation urbaine, avec des villes recouvertes de monuments. Et c'est le même type de monuments qu'on voit de la Germanie à l'Afrique du Nord, de la Syrie jusqu'à l'Espagne. Rome a une obsession, c'est de contrôler l'espace et d'organiser l'espace, d'où ce système de voies, ce système viaire qui parcourt l'Empire d'un bout à l'autre et permet la circulation des hommes et des marchandises. C'est également une culture de l'écrit, une culture du droit, un droit...
Qu'ignoraient les Gaulois, par exemple.
Comment ?
L'écrit qu'ignoraient les Gaulois.
Qu'ignoraient pas totalement les Gaulois, mais ce sont les cultures...
Que ne connaissaient que leurs druides, en tout cas.
Les Gaulois ou les Germains, naturellement, n'ont pas autant manifesté leur propre culture à travers l'écrit que l'ont fait les Grecs ou les Romains. Les civilisations méditerranéennes sont, de façon très précoce, des civilisations de l'écrit. Donc ce modèle-là, de toute évidence, fascine, et les chefs, en tout cas... Des peuples barbares en dehors de l'Empire connaissent ce modèle, l'admirent très souvent. Je le répète, la présence d'objets artistiques, d'objets manufacturés romains dans les tombes des chefs barbares montre bien leur intérêt pour cette civilisation. Et d'ailleurs, quand ils s'installeront sur le territoire de l'Empire, ces barbares ne rêveront que d'une chose, c'est de devenir les continuateurs de la culture romaine et de l'organisation politique de l'Empire.
Ces barbares, justement, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur de l'Empire, auxquels les Romains envisagent, au début du IIIe siècle, d'accorder la citoyenneté.
Ils sont des millions qui guettent à nos frontières. Si nous ne leur ouvrons pas nos portes, ils les briseront. Accueillons ces gens parmi nous. C'est avec leur aide que l'Empire grandira encore. Nous avons changé le monde. Ne pourrons-nous pas nous changer nous-mêmes ?
Oui, le temps est venu. Que la guerre s'efface devant la paix romaine.
Rappelons-nous que derrière ces barbares, il y en a des milliers d'autres, dont les hordes guettent une défaillance de notre part pour nous anéantir. Si nous acceptons ces barbares parmi nous, nos ennemis se hâteront de proclamer que nous sommes faibles. Alors ils fondront sur nous de toutes parts, et ce sera la fin de l'Empire romain. Ce sera la fin de Rome.
Alors malgré les craintes qu'exprimait ce sénateur romain, la citoyenneté va être accordée à l'ensemble des barbares de l'Empire, Jean-Jacques Ayagon.
Ah,
c'est l'édit de Caracalla.
À l'ensemble des hommes libres, et cet édit de Caracalla était précédé de beaucoup de décisions ponctuelles dans telle ou telle province d'accorder l'accès aux magistratures civiles, aux magistratures militaires romaines, aux notables locaux. L'Empire romain est un empire pragmatique qui intègre. Il est pragmatique sur le plan politique, il est pragmatique sur le plan linguistique, il est pragmatique sur le plan religieux. Partout dans l'Empire, Rome tolère les cultes locaux, les romanise un peu, à condition naturellement que les citoyens ou les habitants de cette partie de l'Empire honorent également les dieux de Rome. Et c'est ce qui marquera d'ailleurs la rupture avec le christianisme, puisque le christianisme est une religion absolue qui exclut tout autre culte que le culte dû au dieu des chrétiens. C'est la raison des persécutions des chrétiens par l'Empire romain.
Alors cette citoyenneté permettra aux barbares de l'Empire d'accéder aux plus hautes responsabilités contre une menace qui existe, une menace de barbares encore de l'extérieur qui existe encore avec toutes les populations qui se trouvent à la frontière de l'Empire, sur le Rhin avec les Francs, les Burgondes, les Alamans, encore les Vandales ou les Goths sur le Danube, et puis alors au-delà, ceux qui allaient déclencher ce qu'on appelait les grandes invasions, Jean-Jacques Ayagon, c'est-à-dire les Huns. On dit souvent que les grandes invasions à partir du 3e siècle même, elles sont provoquées justement par ces poussées qui viennent de l'Est et qui chassent, et qui poussent plutôt vers Rome, vers l'Empire romain, tous les peuples qui se trouvent à sa frontière.
Alors elles ne sont pas exactement provoquées, mais elles sont sans doute amplifiées par la pression des Huns. Tous les peuples que vous avez évoqués s'étaient déjà mis en mouvement et avaient déjà engagé leur migration de l'Est et du Nord de l'Europe vers le Sud.
Plus
de migration. Hein. Ce sont des mouvements qui tout d'abord se déroulent sur des périodes très vastes, donc qui ne prennent que très rarement, parfois, cependant, mais qui ne prennent que très rarement la forme d'une invasion comme on pourrait l'imaginer de façon cinématographique. Hein, ce sont des mouvements lents. Mais c'est vrai que les Huns, qui terrifient toute l'Europe, y compris d'ailleurs les peuples germains, les peuples barbares, les Huns ont tendance à accélérer le phénomène et d'ailleurs conduisent très très souvent à des fédérations entre les ex-barbares, les ex-germains et ce qui reste de l'Empire romain à la bataille des Champs cataloniques près de Châlons en Champagne. On voit des troupes romaines alliées à des troupes barbares, des troupes visigothiques, des troupes franques pour lutter contre Attila.
Alors Visigoths, Francs, Vandales qui vont s'installer dans l'Empire romain. Et d'ailleurs, il va y avoir des pérégrinations extraordinaires. Les Goths en général s'établissent d'abord au sud du Danube avec l'autorisation des Romains. Ils deviennent citoyens romains. On les retrouvera plus tard en Espagne, d'où ils chassent les Vandales qui s'y étaient installés, qui ont fondé l'Andalousie d'ailleurs, qui sont à l'origine du mot en tout cas. Et les Vandales qui, eux, vont partir à un autre endroit de l'Empire romain, c'est-à-dire aller jusqu'en Afrique du Nord, jusque dans l'actuelle Tunisie. C'est assez extraordinaire ces migrations de barbares devenus romains au sein de l'Empire.
Non mais ces gens sont des nomades, bougent beaucoup à une époque où il n'y a pas de chemin de fer, où il n'y a pas d'avion, où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas d'autoroute. On est toujours frappé par l'ampleur de ces mouvements de peuple. Et pourtant, ces mouvements de peuple sont extrêmement impressionnants. Et en effet, un peuple comme celui des barbares parcourt toute l'Europe avant de se retrouver en Afrique du Nord,
où
ils fondent un empire maritime qui durera, une vraie puissance maritime qui durera à peu près pendant un siècle.
Cela dit, se comportant, on le dit souvent, d'ailleurs le mot vient, comme des Vandales. Est-ce que
c'était
le cas?
Là aussi, je ne dis pas qu'il n'y a pas que cette migration de peuple ne s'est pas accompagnée de quelques violences. Après tout, ces gens voulaient conquérir. Mais dès qu'ils sont installés quelque part, les barbares et même les Vandales se comportent en continuateurs de l'Empire romain. À Venise, à Palazzo Grassi, nous exposons dans les salles consacrées aux Vandales une dédicace, une plaque de marbre avec une dédicace de la restauration des thermes de Carthage. Donc le roi Vandale restaure les thermes, tout comme le roi Ostrogo-Théodoric à Ravenne restaure l'aqueduc. Et quand le roi des Francs Childéric se fait ensevelir, on l'ensevelit comme un chef barbare, on sacrifie sur sa tombe une trentaine ou une quarantaine de chevaux, mais on le revêt également d'un manteau de pourpre et on met à son doigt une bague consulaire pour bien marquer qu'il est le représentant de l'autorité romaine sur cette partie de l'Empire. Donc les barbares, les rois barbares, très rapidement se disent qu'ils sont les nouveaux représentants de l'autorité de l'État romain et qu'il leur appartient de continuer toutes les activités de l'État romain.
Et ils se battent d'ailleurs pour le compte de cet État romain. Ce sera le cas justement d'un général goth qui s'appelait Odoac, qui eut d'abord Alaric avant lui, qui a déjà pris Rome, parce qu'ils viennent également réclamer ce que leur doit la capitale de l'Empire. Et c'est le cas de Odoac, justement, qui en 476, qui travaillait, qui était un général à la solde de Rome, eh bien, allait arriver, s'emparer de Rome, sans difficulté d'ailleurs, puisque plus personne ne la défend, étant donné que Rome a perdu des territoires, notamment avec l'Afrique du Nord, des territoires qui l'approvisionnaient. Eh bien, c'est Odoac qui avait déposé le dernier empereur romain d'Occident, un enfant de 10 ans, Romulus Augustule.
Depuis 10 ans, j'apporte mon soutien à Rome. 10 ans.
Lui, qui est-ce?
Ont combattu aux côtés de tes légions.
Le chef des Goths, Odoac.
Alors aujourd'hui, me voici, et je réclame ce qui me revient.
Qu'est-ce qui te revient, général?
Le tiers de toute l'Italie.
Rome est tombée. La garnison de Rome a fait serment d'allégeance à Odoac. Depuis, les commandants restants se sont prononcés. Ils se rangent tous du côté des Goths.
Nous chasserons les envahisseurs.
Odoac n'est pas qu'un simple barbare.
Ah non?
Non, c'est devenu un politicien d'une grande acuité. Dorénavant, il a le Sénat de son côté. Romulus.
Tu veux dire César?
César est un mot qui appartient au passé. Aujourd'hui, il n'y a plus de César.
Aujourd'hui, il n'y a plus de César. C'était en 476, la fin avec le dernier empereur romain, la fin de l'Empire romain d'Occident. pas la fin de l'Empire romain en général, puisqu'il se prolonge, Jean-Jacques Ayagon, vous le rappelez, avec l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire Byzance, et ça va même durer encore 1000 ans.
Et ça va durer 1000 ans encore, et d'ailleurs, Odoacre, en déposant Romulus Augustus, ne pense pas supprimer ou abolir l'Empire, il pense tout simplement reconstituer l'unité de l'Empire. Que fait-il ? Il renvoie à Constantinople les attributs impériaux, pour dire que désormais il n'y a plus qu'un seul empereur, qu'il n'est plus à Rome, qu'il est à Constantinople. Mais par ailleurs, l'Occident, même quand il n'y aura plus d'empereur siégeant dans l'ex-capitale, dans la capitale historique de l'Empire...
parce qu'il n'y a pas eu que Rome, hein, il faut le rappeler, avant la chute le départ de Romulus Augustule, la capitale avait été transférée à plusieurs reprises dans différentes villes, comme Ravenne, par exemple, d'autres villes,
comme Trèves. Vous savez, à l'époque de Dioclétien, quand on ne sait plus comment gouverner ce vaste territoire, on décide de le diviser en 4 parties, chaque partie étant gouvernée pour 2 d'entre elles par un Auguste et pour 2 d'entre elles par un César. Et on prétend que l'Empire est un, tout simplement parce qu'il règne une parfaite concorde entre les 2 Augustes et les 2 Césars. C'est Constantin qui rétablit à son profit l'unité de l'Empire, mais en même temps, il crée une nouvelle capitale qui porte son nom, d'ailleurs Constantinople. Après Constantin, l'Empire se divise en gros en 2 parties, mais avec toujours la fiction de l'unité de l'Empire. Et donc, Odoacre, en renvoyant à Rome les insignes impériaux, dit « Écoutez, en fait, nous ne reconnaissons qu'un seul empire, qu'un seul empereur, c'est celui de Constantinople. » C'était une fiction, parce que la réalité, c'était bien que l'Occident s'était progressivement émancipé de l'Empire et vivait de sa propre existence.
Avec, et se divisait en plusieurs royaumes, c'est une période peu connue de l'histoire de l'Europe occidentale, en plusieurs royaumes barbares, celui des Visigoths d'Espagne, celui des Lombards, celui des Burgondes en Bourgogne, celui des Francs, et des royaumes qui en fait reprennent au fond l'héritage de Rome. Il n'y a pas eu, comme on le dit souvent, l'effondrement de la civilisation romaine avec la disparition de l'Empire romain d'Occident. Elle se prolonge par ces barbares qui reprennent l'héritage, et notamment l'héritage, la religion qui est chrétienne depuis Constantin, et sur laquelle ils vont même d'ailleurs exercer une influence. Vous le rappelez dans le catalogue de votre exposition, Jean-Jacques Ayagon. Il y a eu beaucoup d'apports barbares dans la religion chrétienne, dans
le christianisme. Parce que vous le rappelez, l'Empire se christianise officiellement à partir de Constantin et surtout à partir de Théodose, qui interdit les cultes païens. Mais dans le même temps, les barbares se convertissent également au christianisme, à une forme un peu différente de christianisme que le catholicisme orthodoxe de l'Empire romain, en l'occurrence à l'arianisme. Donc une hérésie aux yeux de l'orthodoxie qui, en gros, pour simplifier, déclare que Jésus n'est pas totalement solidaire de la divinité du Père, mais qu'il est une personne divine de rang inférieur, qui a donc un seul Dieu, et on pourrait dire qu'en gros, que l'arianisme est une sorte d'islam chrétien, avec une divinité, Dieu, et un grand prophète, adopté en quelque sorte par Dieu, Jésus. Mais malgré tout, ils sont les uns et les autres chrétiens, et d'ailleurs, très souvent, le catholicisme et l'arianisme coexistent de façon assez convenable. À Ravenne, il y a des églises catholiques et des églises ariennes. Les rois sont ariens, mais ils respectent le culte catholique.
Oui, mais alors, les barbares ne font pas que se convertir, comme ils le feront successivement, au christianisme. Tout à l'heure, je l'ai dit, et vous le rappelez, ils l'influencent aussi. Vous dites par exemple que le culte des saints, c'est une sorte d'adaptation du christianisme aux anciens cultes barbares.
Le christianisme s'intègre dans la civilisation romaine, d'abord dans les civilisations barbares, de façon extrêmement pragmatique. Lui aussi, regardez, la date de la fête de Noël est arrêtée,
oui, les fêtes, oui.
Est fixée sur la date d'une ancienne fête païenne, celle du soleil invaincu. Donc le christianisme naissant, s'établissant dans l'Empire, comprend qu'il faut composer avec la sensibilité religieuse environnante. Dans les pays de tradition celtique, on assiste à des christianisations de menhirs, par exemple. D'abord, on les renverse pour bien marquer l'abattement du paganisme. Ensuite, on les christianise. Et des lieux de culte chrétiens, associés souvent à des personnalités réelles ou fictives de saints, se développent sur ces lieux de culte très, très anciens. Le christianisme, finalement, s'impose à l'Europe en intégrant des éléments de la sensibilité religieuse antérieure.
On considère depuis très longtemps que, au fond, dans cette confrontation entre les barbares et les romains, eh bien, les barbares, c'était le mal absolu, ils n'ont apporté que des désastres, et les romains leur ont tout apporté. Les romains ont beaucoup apporté aux barbares, au peuple barbare qu'ils ont conquis, mais les barbares aussi ont énormément apporté. Il y a eu une espèce de synthèse, dites-vous, entre les civilisations barbares et la civilisation romaine, une synthèse qui est absolument unique pratiquement dans l'histoire à ce point-là.
Non, mais elle est essentielle. La plus grande partie de la culture européenne telle que nous en sommes encore les dépositaires est issue de cette rencontre, de cette convergence entre la culture gréco-romaine et les cultures barbares. N'oublions pas que la carte linguistique de l'Europe d'aujourd'hui témoigne de la stabilisation des zones d'influence entre les mondes romans, les mondes germaniques, les mondes slaves. Regardez de quelle façon nous désignons les pays, beaucoup de pays d'Europe, la France qui porte le nom des Francs, la Lombardie le nom des Lombards, la Bourgogne le nom des Burgondes,
l'Angleterre le nom des Angles,
le nom des Angles en Angleterre, et beaucoup d'éléments de notre culture politique doit beaucoup finalement à la culture politique des barbares. Nous nous sommes toujours voulus romains, romano-grecs, mais nous sommes également barbares. Et je crois que le moment
romano-barbare,
est venu, oui. Romano-barbare, le moment est venu de réhabiliter dans notre conscience collective la part d'héritage que nous devons à ces peuples dits barbares, qui en Europe étaient essentiellement des peuples germaniques.
Et peut-être de s'en inspirer aujourd'hui, c'est une belle leçon avec l'arrivée de nouveaux apports en Europe aujourd'hui avec l'immigration.
Nous vivons une situation qui est finalement très proche de celle qu'a connue l'Empire romain. Nous avons été dominants, nous ne sommes plus dominants. C'est nous qui nous sommes longtemps exportés vers le monde entier et aujourd'hui, il faut que nous réapprenions à vivre avec des femmes et des hommes venus d'ailleurs. Mais je crois que la leçon du premier millénaire de l'ère chrétienne en Europe, c'est que de ce qui est parfois perçu par les uns ou par les autres comme une épreuve, peut sortir quelque chose de très positif.
Rome et les barbares, c'est le titre de la très belle exposition qui se tient jusqu'au 20 juillet 2008 au Palazzo Grassi de Venise et dont vous êtes le commissaire Jean-Jacques Ayégon. Et pour ceux qui n'ont pas la chance ou la possibilité d'y aller, ils peuvent néanmoins la voir dans un magnifique catalogue de l'exposition et qui a été publié chez Skira. À lire également le dossier spécial Rome et les barbares dans la revue L'Histoire de janvier 2008. Et puis Rome, la gloire et la liberté aux sources de l'identité européenne de Jean-Noël Robert aux éditions Les Belles Lettres. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, disponible en DVD aux éditions Opening. Moi, Claude Empereur d'Herbert Wise, un téléfilm diffusé sur la BBC et édité en DVD chez Antarctique. Et enfin, La dernière légion de Doug Lefter aux éditions TF1 Vidéo. Vous retrouvez ces références, vous le savez, par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Cécile Bonhomme et Benjamin de la Gâtinée, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 65 ans après son soulèvement en avril 1943, le ghetto de Varsovie.